J'aimerais commencer par faire la lecture des versets, chapitre 8, des versets 12 à 36. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et lui dire donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru dans lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Voilà jusqu'ici la parole de Dieu. Si vous avez une Bible comme la mienne, peut-être sur la tranche ici ou sur la première page, c'est noté cette devise « Post tenebras lux ». C'est une devise latine, c'est la devise de la ville de Genève. Et c'est aussi la devise de toute la réforme protestante. Ça signifie « Après les ténèbres, la lumière ». Dans le contexte de la réforme, on imagine bien ce que ça représentait. Après le Moyen-Âge, qu'on appelle le Dark Ages en anglais, après cette sombre période si longue d'obscurantisme, de superstition, de ténèbres, d'ignorance, la lumière a jailli. La lumière s'est répandue dans ce monde. Les cœurs ont été bouleversés et le monde a connu le plus grand réveil spirituel de tous les temps, la réforme. L'évangile pénétrant les cœurs, faisant reculer les ténèbres. C'est pourquoi quand on a fait une statue à Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, le premier ouvrage qui a été imprimé, c'est la Bible, une Bible Vulgate, en 1456. Et sur ce feuillet de la statue, c'est marqué ce verset de Genèse, chapitre 1, verset 3. « Et la lumière fut, quand la Bible est apparue dans le monde, pouvant être lue par tout le monde, non plus par simplement les élites qui connaissaient l'hébreu, le grec ou le latin, mais dans leur propre langue, lisant la Bible, la parole de Dieu, la lumière a pénétré les cœurs. Ça a bouleversé les vies. Cette Bible s'est répandue dans le monde. Quand un homme égaré dans ses fausses croyances, dans son ignorance, marche dans ce monde comme à tâtons, sans savoir où il va, sans but, sans véritable espérance, mais accablé par le péché, esclave de ses mauvais désirs. Quand il rencontre Christ, c'est la lumière qui jaillit dans sa vie. C'est la lumière qui jaillit dans son cœur, dans son monde, dans son univers. Tout s'éveille. Eh bien, ce que Jésus nous propose ce matin encore, c'est de connaître un tel réveil spirituel, personnel, en venant à Jésus-Christ, la lumière du monde, et en le suivant. Alors ce matin, je vous propose de voir ensemble l'extraordinaire déclaration de Jésus. On verra ensuite l'habituelle contestation des pharisiens, et puis enfin la terrible révélation de leur cœur enténébré. La déclaration extraordinaire. Il faut d'abord, avant de rappeler ce verset 12, nous replonger dans le récit de cette merveilleuse fête des tabernacles, hein, qui commémore la provision de Dieu envers le peuple d'Israël pendant les 40 années passées au désert. Dieu a donné la manne, hein, cette nourriture extraordinaire qui se déposait chaque jour, chaque matin, et que le peuple pouvait ramasser et qui les nourrissait pendant ces 40 ans. Et puis, ça c'était le chapitre 6 de l'évangile de Jean qui a rappelé ça. Et puis, il y avait aussi cette eau indispensable pour la période du désert, cette eau qui jaillissait du rocher. Et le pasteur Samuel a rappelé comment cette fête des tabernacles rappelait la provision désaltérante de Dieu dans leur vie. Et puis, enfin, il y avait cette colonne de nuée, cette colonne de feu qui était au-dessus du tabernacle. Vous pouvez imaginer la chose. C'était incroyable. Et ça, c'est notre chapitre 8. Cette colonne était soit de nuée, soit de feu. Et à l'époque de Jésus, donc le dernier jour de la fête, dans le contexte de notre passage, il y avait le rite de l'eau, cette cérémonie là du sacrificateur qui renversait l'eau dans le temple. Et puis dans la soirée, à la tombée du jour, il y avait une autre cérémonie qui débutait. Et c'était la cérémonie de l'allumage des lampes. Pendant la fête des tabernacles, il y avait quatre grosses lampes, quatre énormes candélabres là qui étaient dans le parvis des femmes là où tous pouvaient se tenir. Elles étaient allumées. Alors que commençait une célébration tellement exubérante des danses, des chants. Les danseurs dansaient avec des torches dans les mains, hein, et puis psalmodiaient les louanges du Seigneur. Hein, ces lampes rapportaient la colonne de feu qui éclairait le peuple dans le désert. Vous pouvez imaginer la chose. Dans le désert, il y avait le tabernacle, c'était la tente où résidait l'Éternel, avec l'arche de l'Alliance. Et puis, il y avait toutes les 12 tribus tout autour de cette tente de l'Éternel. Et puis, au-dessus de la tente, en plein milieu du camp, il y avait cette immense nuée, ce nuage, mais en forme de colonne, le jour. Et puis, la nuit, ça devenait une torche, une lampe. Et ça éclairait tout le camp. Imaginez la chose. Alors, la fête des tabernacles, ils étaient dans le temple à Jérusalem. Le temple, c'est un petit peu en hauteur de la ville. Et puis, il y avait ces grandes lampes qui éclairaient. C'était comme s'il y avait une colonne de feu qui sortait de ce temple et puis qui éclairait un peu Jérusalem. Il chantait des cantiques, psaume 27, verset 1, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Les Israélites aussi lisaient les livres d'Ésaïe, où on parle du serviteur de l'Éternel, le Messie qui a été établi pour être la lumière des nations, hein, pour apporter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, vous vous souvenez de ce jour où Jésus a été présenté au temple, il était encore bébé. Il est arrivé là dans les mains de Siméon, ce vieux monsieur pieux. Et voilà ce que Siméon dit. Il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, parce que selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Voilà un homme pieux dans ce même temple qui avait reconnu Jésus-Christ comme étant la lumière des nations. Toutes ces vérités sont là dans leur pensée. Même, ils connaissaient ces passages du prophète Ésaïe qui annonçaient que dans l'éternité, il n'y aura plus de soleil. L'Éternel lui-même, le Seigneur lui-même sera la lumière pour éclairer les cœurs. Et toutes ces vérités sont là dans leur pensée. Et Jésus se lève et fait cette déclaration phénoménale. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Imaginez ça. Je suis, rien que ça, je suis la lumière du monde. Ça veut dire, c'est pas je suis une lumière dans le monde. Non, non, mais la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière. Il est en train de dire, c'est Jésus. Où les ténèbres? Ça signifie que tout le monde et chacun individuellement a besoin de Jésus comme sa lumière. Être sans Jésus, c'est demeurer dans les ténèbres. C'est ne rien comprendre à la vie ici-bas. C'est ne rien connaître de l'éternité, de la vie véritable. Cette lumière éclaire nos cœurs et elle met en évidence notre péché, notre corruption. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle on ne vient pas facilement à la lumière. Quand la lumière frappe nos cœurs, elle dévoile qui l'on est véritablement. Et ça, ça nous met un peu, ça nous met mal à l'aise. Mais cette lumière fait aussi briller d'un nouvel éclat les plus belles choses de ce monde. Et c'est cela qui doit être célébré aussi aujourd'hui. Il y a un cantique qui dit « Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. » C'est-à-dire l'instant où on connaît Jésus-Christ comme son sauveur. C'est comme si maintenant on peut voir en couleur. Avant, c'est les ténèbres, noir et blanc. La vie prend tout son sens dès l'instant où la lumière pénètre nos cœurs. Je suis la lumière du monde, Jésus dit. Suivez-moi et vous ne marcherez plus jamais dans les ténèbres. Et vous aurez la lumière de la vie. Vous verrez le sens de la vie. La clé pour vivre vraiment. La source de la vie éternelle. Tout cela, c'est en Jésus. Retirer Jésus, c'est éteindre la lumière. C'est vivre dans les ténèbres. C'est être aveugle spirituellement et mort. Alors quand Jésus fait cette déclaration, il est en train de leur dire, ce que vous célébrez aujourd'hui, c'est une image. Ce que je suis, c'est simplement l'image de ce que je suis, mais maintenant que je suis là, ne vous arrêtez pas à l'image, saisissez la réalité. Parfois, on peut être conduit dans le temple, comme ces juifs, pour célébrer, parce que c'est notre coutume, c'est notre habitude, c'est notre tradition. On y va tous les dimanches. Ah, peut-être ce qui nous attire, c'est un peu la fête, justement. Parfois, on n'y va que pour la fête. Pâques ou tabernacle. On y va juste pour l'ambiance. Parce que là, ce jour-là, c'était, il y avait une sacrée ambiance dans le temple. Mais Jésus dit, je suis la réalité de ce que vous voulez célébrer. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas à juste la fête. Saisissez la réalité. Si j'entre dans votre vie, c'est la lumière qui vient dans votre cœur, mais vous gardez cette lumière avec vous. Ce n'est pas simplement quelques heures dans la semaine ou quelques jours par an, mais c'est tous les jours de votre vie que je serai avec vous. Saisissez la réalité. Mais après une telle déclaration, on pourrait s'attendre à un accueil triomphal de toute la foule en train de se dire « Mais regardez, il est là, la lumière, c'est lui qu'il faut célébrer !» Et ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Au verset 13, commence la contestation. Les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Il lui dit « Mais ça ne marche pas !» Ça marche pas parce que c'est toi qui te rends témoignage de toi. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui rende témoignage parce que sinon, ça marche pas. Au fond, il n'y a qu'un aveugle pour demander au soleil de prouver qu'il est clair. Oui, c'est vrai. Jésus dit, je suis le seul à pouvoir rendre témoignage de cela. C'est pour ça que je suis seul témoin. Parfois, il n'y a que la personne elle-même qui connaît les faits qui la concernent. Une illustration. Si je monte à la tour Eiffel et que je rends un témoignage de la vue que l'on a du deuxième étage, il y a 7 millions de personnes chaque année qui peuvent effectivement rendre le même témoignage. Contredire mon témoignage, peut-être s'il est faux, ou vérifier mon témoignage. Mais si on interroge Thomas Pesquet, qui vient de passer 6 mois dans l'espace, et si on l'interroge sur « Mais comment ça se passe là ? Quand tu descends là de l'espace et que tu arrives sur la Terre dans cette capsule Soyouz là, comment c'est ?» Il n'y a que lui qui peut rendre témoignage de ça. Et son copain, collègue russe. Vous voyez, il y a des choses que seul Jésus peut vérifier, que seul Jésus peut nous apprendre. Quand il parle de son voyage, entre guillemets, du ciel, où il est venu sur la terre, lui seul peut en témoigner. C'est le seul à avoir fait ce voyage. Mais lui seul en parle. Et il en parle avec vérité. Et puis, le Père aussi, qui l'a envoyé, rend témoignage de lui. Alors, peut-être vous vous interrogez, mais est-ce qu'il y a un ciel ? Ne me posez pas la question à moi, posez-la à Jésus. Écoutez ce que Jésus dit du ciel, parce que lui, il vient du ciel. Il a fait le voyage. Y a-t-il une vie après la mort ? Comment est-ce qu'on peut connaître cette vie ? C'est Jésus qui explique ces choses. C'est lui qui a fait le voyage. Et puis la deuxième contestation, au verset 19 et 20, ils lui disent « Mais où est ton père ?» Ah oui, il dit « Mon père témoigne de moi. » Mais où est ton père ? C'est vrai, le père n'est pas visible. Mais c'est tout l'objectif de la mission de Jésus. Nous faire connaître le Père est le moyen de vivre éternellement dans sa présence. Dans le début de son évangile, Jean, dans son prologue, il écrit « Chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père. Mais Jésus le Fils, Dieu le Fils, a fait connaître notre Dieu. Voilà comment on peut connaître Dieu. Le témoignage de la présence du Père avec Christ, il est partout. Hein, même Nicodème, ce pharisien, il a rappelé cela. Il a dit à Jésus, « Personne ne peut faire les œuvres que tu fais si le Père n'est avec lui. » Et pour reconnaître le Père, il faut pouvoir connaître le Fils. Quand des nouvelles personnes viennent me voir, on me dit « Ah, mais je connais votre fils !» Ah oui, il a... c'est pareil, c'est le même que vous, mais avec 25 ans de moins. Et pareillement, les gens me disent, viennent voir mon fils en disant « Mais je connais ton père, c'est lui !» Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une ressemblance. Et Jésus, lui, il est venu pour révéler le Père. Si on s'approche de Christ, on va connaître le Père. En parlant de Dieu comme de son Père, il se fait égal à Dieu. Et à chaque fois, d'habitude, ils veulent le mettre à mort. Et ici, verset 20, Jésus dit, Jean nous fait relever, « Jésus dit ses paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit. » Parce que son heure n'était pas encore venue. Vous vous rendez compte ici, il est en train de dire, il dit à des religieux, il dit à des gens qui sont censés enseigner les choses de Dieu, il leur dit, vous ne connaissez pas Dieu. Waouh ! Normalement, ça se passe mal à ce moment-là. Et ça s'est pas mal passé. Et la Bible dit que parce que ce n'était pas encore son heure, c'est-à-dire l'heure de sa mort. Vous voyez les ténèbres qui pèsent sur les cœurs. L'apôtre Paul, il dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Hop, voilà. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous rendez compte de ce qu'il dit ? Il dit, les gens qui ne voient pas Jésus-Christ, c'est-à-dire toute cette foule-là, qui ils sont là en train de célébrer la provision de Dieu, si on peut dire, la lumière que Dieu leur a envoyée, ils ne voient pas la lumière qui est là. La lumière qui est là ! Et c'est pourquoi ? Parce qu'il a aveuglé, le diable a comme aveuglé leur intelligence. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Il faut véritablement que le Saint-Esprit éclaire un cœur pour qu'il puisse saisir les choses d'en haut. Enfin, voyons la terrible révélation. C'est la révélation des ténèbres du cœur de l'homme. Jésus, il revient à la charge un petit peu, il leur dit encore, verset 21, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs, ils pensent à ce moment-là, certainement, Jésus veut se suicider. Hein, c'est ce qu'il est dit juste après. Sur quoi les Juifs se dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et on pense que c'est probablement assez sarcastique ici. Dans leur pensée, se suicider, c'est la chose la plus terrible qu'on puisse faire, qu'on puisse commettre. Et du coup, le suicide dans la tradition juive de l'époque, c'était un péché particulièrement odieux, synonyme de bannissement permanent dans les pires endroits de l'enfer. Et donc, quand il dit « Vous ne pouvez pas me suivre », eux, ils pensent. Jésus, il est certainement en train de nous dire « Je vais devoir aller en enfer parce que je vais me suicider ». Et eux, il n'y a pas le moindre doute dans leur pensée. Ils pensent, bah, nous, on va aller au ciel, bien sûr. Nous, on va au ciel parce qu'on est tellement, tellement bien. Ils tiennent pour acquis le ciel parce qu'ils fondent leurs espoirs d'aller au ciel sur l'accomplissement de bonnes œuvres, l'observance de cérémonies, de rituels. Vous savez, rien n'a changé. Dans toutes les époques et de toutes les personnes religieuses, elles sont autosuffisantes. Elles pensent avoir la vie en elles-mêmes. Elles pensent que simplement par le fait d'être religieux, de venir dans un temple, elles iront au ciel. Et du coup, elles n'ont jamais besoin de la lumière, n'ont jamais vraiment besoin de Jésus-Christ. Mais Jésus leur dit, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça qui va nous empêcher d'être ensemble. C'est parce que vous allez mourir dans vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous empêchent d'être là où je vais. Vous êtes d'en bas de ce monde. Comment est-ce que vous pourriez venir en haut? Vous ne concevez pas les choses de Dieu. Vous ne sentez même pas votre misère. Voilà la terrible révélation de leurs ténèbres. Ils sont autosuffisants. Et du coup, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Et puis, ils se trompent aussi sur leur identité, sur l'identité de Jésus. Au verset 24 et 25, Jésus leur dit, « Vous ne croyez pas ce que je suis. » Littéralement, si vous ne croyez pas que je suis, c'est-à-dire que je suis l'Éternel. Jésus, il est l'Éternel. Il n'est pas un rabbin, il n'est pas un prophète. Il n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas un illuminé, il est Dieu, il est la lumière du monde. Vous savez que chacun de nous a deux théologies. On a une théologie que l'on professe, et puis il y a une théologie qui nous est réelle, véritablement. C'est-à-dire, eux, si vous les aviez interrogés, puisque c'est des gens religieux, on leur dit, comment est Dieu? Oh Dieu, il est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il est sans péché. Okay. Il dit la vérité. Ouais. Tout est là. Mais dans leur cœur, il y a une autre théologie qui s'applique. Une théologie qui est réelle. Par exemple, je crois que Dieu, et nous on fait souvent la même chose, je crois que Dieu est tout puissant et qu'il répond à la prière. Ça, c'est ma théologie professée. Mais le temps que je passe dans la prière à faire connaître mes besoins à Dieu, ça, c'est ma théologie réelle. Je crois que Dieu, il est omniscient et il est omniprésent. Ça, c'est ma théologie confessée, professée. Mais je vis comme s'il ne me voyait pas. Comme s'il ne connaissait pas mes pensées. Ça, c'est ma théologie réelle. Je crois que Jésus est la lumière du monde, que sa parole est une lampe à mes pieds. Ça, c'est ma théologie professée. Mais pour éclairer mon mariage, pour m'éclairer sur mon orientation professionnelle, sur ma manière de gérer mes finances, ah, ça, c'est moi qui m'en occupe. Ça, c'est ma théologie réelle. Vous voyez la chose, parfois on a une idée claire dans notre tête qui est Dieu, mais pratiquement, on agit différemment. Il faut que notre théologie soit conforme. Et puis, ils se trompent aussi sur leur état de liberté. Dans les versets 32, et Jésus leur dit, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et lui répondirent, « Mais nous sommes les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Eux, ils ne pensent pas avoir besoin d'être libérés, d'être affranchis. Alors évidemment, ils parlent d'une liberté spirituelle ici, parce que l'esclavage, ils ont connu ça en Égypte, ils ont connu ça en Assyrie, ils ont connu ça à Babylone, ils ont connu ça aussi avec les Grecs et puis avec la Syrie. Et au moment où Jésus parle, eh bien, ils sont encore esclaves des Romains. Donc, eux, non, ils pensent plutôt à une, je pense, à un esclavage spirituel. Et ils se sentent en sécurité grâce à leur appartenance à la postérité d'Abraham. Et la réponse de Jésus, elle est simple et elle est aussi dévastatrice. Il l'a fait précéder par l'expression solennelle « en vérité, je vous le dis ». Là, c'est une vérité absolue qui est énoncée. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Wow. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous savez, la vraie liberté n'est pas de faire ce qui nous plaît, mais de faire ce que nous devons faire. Et quand on cherche à faire ce que l'on doit faire et qu'on n'y arrive pas, c'est là qu'on réalise que je suis esclave. Je suis incapable de me libérer de tels péchés. Je n'arrive pas à vivre à la hauteur de mes engagements. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Vous voudriez être libre, mais vous voyez bien qu'il y a des chaînes qui plombent votre vie. J'ai assisté il y a quelques jours à un spectacle de danse. Et dans ce spectacle, on était tous plongés dans l'obscurité. Mais sur la scène, il y avait une poursuite de lumière, vous savez. Et du coup, toutes les danseuses qui étaient là sur cette scène étaient tout le temps en permanence dans cette en pleine lumière, quelle que soit leur course, leur saut ou leur je sais pas comment on appelle ça. C'était magnifique. Voyez-vous, vivre ou suivre Christ, c'est rester dans ce halo de lumière. C'est être en permanence en communion avec Christ. C'est demeurer dans sa présence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de chute ou qu'il n'y a jamais de faux pas, mais que nos fautes sont reconnues et confessées. Vivre dans la lumière, c'est accepter d'être vu tel que je suis vraiment, sans le masque. Et accepter cela, c'est la vraie liberté. C'est d'être accepté d'être démasqué et de pouvoir dire « Je suis exactement celui que Dieu voit ». Celui qui projette sa lumière. Je suis exactement comme ça. Et je suppose que dans votre propre cœur, parce que c'est comme ça dans le mien, il y a quelque chose de paniquant à ce moment-là. Est-ce que je vais paraître exactement tel que je suis? Ça nous fait peur parce que ce n'est pas si joli que ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la lumière que projette Christ dans notre vie va aussi nous éclairer sur Jésus-Christ lui-même, la lumière. Et c'est possible de rester dans sa lumière sans craindre. Parce qu'un jour, lorsque l'heure est venue, Jésus, la lumière du monde, a été chargé sur une croix de toutes nos ténèbres. Et alors qu'il était là, crucifié entre ciel et terre sur cette croix, en plein midi, les ténèbres sont tombées sur la terre. C'était comme si la lumière s'éteignait. Tous nos péchés étaient portés sur la personne de Jésus-Christ et la lumière s'est éteinte. C'est comme si Dieu acceptait le prix de la rançon. La lumière s'est éteinte pour que nous puissions demeurer toujours en sa présence, dans la lumière. Jésus a rendu l'esprit. Et à ce moment-là, il y avait ce centenier qui avait présidé toute la cérémonie de la crucifixion, qui a été bouleversé. Il a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ne craignez pas la lumière. Elle mettra certes en évidence vos fautes cachées, mais elle révélera aussi la toute suffisance du sacrifice de Jésus-Christ pour couvrir ces mêmes fautes, de sorte que vous soyez réellement libres. Tous les réveils spirituels, que ce soit individuels ou collectifs, commencent tous par un intense désir de venir à la lumière, de se laisser pénétrer par la lumière de Dieu, d'être vu tel que nous sommes véritablement, comme des pécheurs qui avons besoin d'être pardonnés. Mais cette lumière projette un éclat tout particulier sur la croix de Christ qui montre Jésus payant, la lumière du monde s'éteignant à notre place pour que nous puissions connaître l'éternité. Ah oui, il y a un instant d'humiliation, mais cet instant d'humiliation est toujours suivi d'une joie immense, d'une liberté et de la vie véritable. Alors je vous invite à vous incliner dans la prière, demander au Seigneur de pénétrer nos cœurs de son regard. Seigneur notre Dieu, tu es la lumière du monde. En venant dans le monde, tu éclaires tout homme. Rien n'est caché, Seigneur, à ton regard. Tu pénètres nos cœurs au plus profond, tu pénètres nos pensées. Tu connais tout de nous, rien n'échappe, Seigneur. Et pourtant, tu ne nous condamnes pas. Parce que tu nous as aimés à la croix, parce que tu as été frappé à notre place, parce que nos crimes ont été payés. Seigneur, merci parce que sans l'œuvre de Christ à la croix, nous serions condamnés. Seigneur, nous voulons, nous qui te connaissons, nous voulons te prier que tu nous aides à demeurer, Seigneur, dans ta présence, sous ta lumière ou dans ta lumière, Seigneur, tous les jours de notre vie. Aide-nous à vivre d'une manière qui est en communion avec toi, reconnaissant notre besoin permanent d'être pardonné, d'être relevé, d'être restauré, Seigneur, dans notre relation. Seigneur, fais-le pour que cette lumière se reflète dans nos cœurs et qu'elle puisse éclairer d'autres et que tu transformes encore nos vies, que tu nous rendes vraiment libres. Seigneur, permets qu'entre frères et sœurs, on puisse être vrai, vivre ensemble dans la lumière, reconnaissant notre besoin de toi. Béni sois-tu encore, Seigneur notre Dieu, pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Glorifie encore ton nom dans notre vie, à chacun, par Jésus-Christ. Amen. Amen, on va chanter encore un cantique.